Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité a adopté une résolution demandant la pleine participation des femmes au pourparlers de paix à travers le monde. Un espoir de paix pour la Syrie, le comité constitutionnel syrien doit se réunir demain à Genève. En Irak, 12 000 réfugiés syriens sont arrivés ces deux dernières semaines après le début de l'opération turque dans le nord-est de la Syrie. Et en dossier, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation, Kumbu Boli Bari, nous explique pourquoi l'éducation a un rôle essentiel à jouer dans la prévention des conflits. Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui pour discuter des avancées dans l'application du programme pour les femmes, la paix et la sécurité. Près de 20 ans après l'adoption de la première résolution sur cette question, les membres du Conseil ont adopté une nouvelle résolution demandant aux États de soutenir la pleine participation des femmes au pourparlers de paix sur un pied d'égalité avec les hommes. Un appel jusqu'à présent peu traduit dans la réalité, ont déploré le secrétaire général de l'ONU et la directrice d'ONU Femmes. Pascal Sim nous en dit plus.
Les engagements pris par le Conseil de sécurité pour accroître le rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits ne se traduisent pas par de vrais changements à travers le monde. C'est ce qu'a déploré le secrétaire général de l'ONU devant ce même Conseil. Même constat de la part de la directrice exécutive d'ONU Femmes, qui constate toujours un fossé entre les paroles et les actes. Près de deux décennies après l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, les femmes sont toujours exclues des processus de paix et politique, ont déploré Antonio Guterres et Fumzile Mlambo. Les accords de paix sont adoptés sans tenir compte des besoins et des priorités des femmes et des filles, a déclaré le chef de l'ONU, ces dernières continuant de subir les conséquences des conflits. Les femmes sont toujours victimes de violences misogynes, politiques et sexuelles et ne bénéficient toujours pas des programmes de reconstruction post-conflit, toujours dominés par les hommes, a dénoncé la chef d'ONU Femmes. Et pourtant, la corrélation entre l'inégalité des sexes et le risque de basculer dans un conflit est bien prouvée, a rappelé Fumzile Mlambo. Antonio Guterres a rappelé aux États que l'inaction à faire respecter les droits des femmes et leur participation au processus de paix entraîne des coûts énormes pour l'ensemble de la société.
Cela sera une première sur le chemin de la paix en Syrie. Le comité constitutionnel syrien, chargé de rédiger une nouvelle constitution, doit se réunir demain à Genève sous les auspices des Nations Unies. Alpha Diallo nous en dit plus.
Les 150 délégués du comité constitutionnel vont se retrouver demain mercredi aux côtés de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Geir Pedersen lancera officiellement les discussions avec les deux co-présidents du comité, l'opposant Adi Al-Bara d'un côté et l'envoyé de Damas Ahmed Kousbari de l'autre. Selon les services de M. Pedersen, les délégations syriennes sont déjà à Genève. Le médiateur de l'ONU a d'ailleurs prévu de s'entretenir aujourd'hui avec les deux co-présidents du comité. Par la suite, il aura séparément une réunion préparatoire avec chacun des groupes, notamment la délégation gouvernementale, celle de l'opposition, mais aussi les représentants de la société civile. Et avant le début de la réunion mercredi, M. Pedersen a prévu également de s'entretenir en fin de journée aujourd'hui à Genève avec les ministres des Affaires étrangères russes, turcs et iraniens. Il faut rappeler que le ministère de l'ONU pour la Syrie a exprimé hier lundi l'espoir que la réunion de cette semaine sur les bords du lac Léman ouvre la voie à un processus politique pour ce pays ravagé par plus de 8 ans de guerre. A noter que le comité constitutionnel de 150 membres est réparti de façon équitable entre des représentants de Damas, de l'opposition et de la société civile.
Le nombre de réfugiés syriens ayant fui en Irak au cours des 15 derniers jours à la suite de l'opération de la Turquie dans le nord-est de la Syrie atteint désormais 12 000. C'est ce qu'indique l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Le camp de Bardarach, qui a été récemment ouvert, accueille 11 000 de ces réfugiés. On écoute Andrej Majcic, porte-parole du HCR à Genève.
Plus de 12 000 réfugiés syriens ont déjà rejoint l'Irak voisin en quête de refuge dans le cadre du tout dernier afflux qui a commencé il y a 15 jours. Au camp de Bardarach, qui a été récemment ouvert, la population réfugiée a maintenant dépassé la barre des 11 000 personnes et plus de 800 d'entre elles sont désormais hébergées au site de transit de Gawilan. Les deux sites se trouvent à environ 150 km à l'est de la frontière entre la Syrie et l'Irak. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités font leur possible pour regrouper les réfugiés présents dans le camp avec leurs proches qui résident dans la région du Kurdistan irakien. Le HCR soutient l'action menée par les autorités de la région du Kurdistan irakien, le KRI, et travaille en étroite collaboration avec elles pour préparer d'autres sites au cas où les deux sites atteindraient leur capacité initiale d'accueil.
L'éducation peut jouer un rôle dans la prévention des conflits. C'est le message de Kumbu Boli Bari, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. lors de sa récente venue à New York, je l'ai reçue dans nos studios. Elle nous explique plus en détail le rôle préventif de l'éducation, mais aussi comment, dans certaines circonstances, l'école peut diviser au lieu de rassembler.
L'éducation, pour moi, c'est un instrument puissant, dans le sens où c'est un système qui est vraiment au niveau de la société et qui permet plutôt d'anticiper et de prévenir. Et ça, c'est fondamental. Et ce rôle d'anticipation, il est essentiel parce que, au lieu d'attendre que les conflits éclatent et on cherche à remédier, autant prévenir. Et l'éducation, c'est ce puissant instrument-là dans ce processus de prévention des conflits. Parce que si on intègre les valeurs fondamentales, essentielles, de solidarité, d'acceptation, de diversité culturelle, mais aussi d'une culture de gestion des conflits, je suis sûre et certaine que quelque part, même en démarrant à la petite enfance, en allant au primaire, au secondaire, mais aussi à la formation professionnelle, mais aussi à l'université, parce que pour moi, il faut que ce soit vraiment de façon holistique qu'on tienne compte de cette dimension, capacité de prévention de l'éducation dans le système éducatif pour aider justement les sociétés à mieux se mouvoir et prévenir les atrocités, prévenir les conflits. Un enfant à bas âge, on me demande souvent, mais à quel moment il faut démarrer? J'ai dit, il faut démarrer très tôt. Juste dans une salle de classe, un enfant qui a 3 ans, qui bouscule son petit copain ou sa petite camarade par mégarde, le minimum, c'est sa capacité déjà à lui dire « excuse-moi, pardon ». Rien que ça déjà. Et l'autre va récupérer peut-être le cadavre et puis elle lui remettre, elle va dire « merci ». Vous voyez, c'est déjà cette capacité interne et intérieure à être en paix avec soi-même, à développer cette confiance, mais surtout à développer aussi une sorte d'empathie vis-à-vis des autres. Et ça commence déjà très tôt pour moi. Et il faut absolument que les valeurs intrinsèques puissent être développées déjà à cet âge-là. La capacité à accepter l'autre, la capacité aussi à avoir une pensée critique. C'est pas face à un événement, c'est pas tout ce que les médias disent, qu'il faut absolument prendre le temps de digérer, mais pour que ça se fasse, il faut absolument que l'éducation donne aussi les outils et les instruments fondamentaux aux élèves, aux apprenants et aux apprenantes quand il s'agit de l'alphabétisation ou de l'éducation non formelle. Il faut qu'on leur donne, bien sûr, ces instruments, ces outils, mais aussi ces techniques pour pouvoir décoder, pour pouvoir être capable de critiquer, d'avoir une lecture croisée, de s'assurer qu'on a plusieurs sources d'informations, mais aussi de s'assurer comment on reçoit une information et comment on la digère de façon critique. Et ça, c'est vraiment une question aussi de noyau pédagogique. Et pour moi, ça, c'est fondamental et c'est l'éducation qui peut le faire.
Vous l'avez mentionné dans votre récent rapport, il y a des circonstances dans lesquelles les écoles peuvent diviser au lieu de rassembler. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Il faut reconnaître que quand on dit l'école peut à la fois diviser, c'est la façon dont, quand on est en situation par exemple de conflit, on est en situation de guerre, on utilise l'éducation comme un instrument de propagande où on utilise l'éducation plus pour diviser les gens en disant aux autres de toute façon, prenez par exemple les guerres interethniques ou au cas où on décide que des minorités, on veut les brimer. On utilise l'éducation à la fois dans les manuels, vous allez retrouver que ces gens-là, ils ne font pas partie de l'histoire, leur histoire est complètement reléguée au deuxième plan ou n'existe même pas dans les manuels scolaires ou tout simplement quand ça existe, c'est pour dire ce sont des gens qu'on a conquis à telle époque. Ça ne fait que renforcer le pouvoir de domination d'un groupe sur un autre. Et ça, c'est pas fonctionnel. Souvent même, toutes les questions, par exemple, qui sont liées aussi aux femmes ou aux filles, vous prenez un manuel scolaire dans lequel vous ne voyez que des images stéréotypées de femmes qui sont à la cuisine, qui sont en train de balayer, qui sont en train d'aller chercher de l'eau, qui sont en train de servir le mari. Ce sont aussi des images de stéréotypes qui font que quelque part, on considère qu'un tel groupe vacille son rôle et son statut dans la société. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'éducation souvent est le reflet aussi de ce qui existe dans la société. Et il faut que l'éducation soit plutôt une sorte d'avant-gardiste en prévenant et en anticipant et en proposant plutôt des valeurs fondamentales humaines.
Voilà la fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.